Début 2020, presque personne ne télétravaille en Belgique. Mais à la mi-mars, pour raisons sanitaires, tous ceux pour qui c'est possible sont priés de travailler à la maison.
Moi, la semaine suivante, je pensais que j'allais venir au bureau comme tout le monde. J'avais dit à mon mari, c'est pas grave, confinement, pas confinement. Et puis le lundi, on est allé au bureau et le boss a dit, non, mais tout le monde sort.
Légalement chez nous, quand il n'est pas explicitement prévu dans le contrat, le télétravail ne peut être décidé que si les deux parties sont d'accord, l'employeur et le salarié. Ici, personne n'a eu le choix.
Est-ce que vous comprenez tout de suite que ça va fondamentalement changer la donne?
Non, parce qu'on ne s'imaginait pas qu'on en serait encore au même stade à l'heure actuelle. Maintenant, ça fait 9 mois, donc on aurait presque fait un bébé sur cette période-ci.
Personne n'a eu le choix, mais aujourd'hui, quand on questionne les télétravailleurs, on entend dire ça.
Je voudrais qu'il soit une option qui ne soit pas mise d'office, mais je pense que de temps à autre, ça me semblerait quelque chose d'assez utile, oui.
On vous proposerait un nouvel emploi. Vous seriez attentif à cette possibilité de télétravailler ou pas?
Ah, tout à fait. Je pense que je ne ferais pas revenir en arrière et dire je vais 5 jours au bureau.
Et côté entreprise, cela semble encore plus clair.
On a anticipé de 5 à 10 ans cette révolution numérique et ce basculement vers le télétravail.
Nous aurions donc franchi le pas, et beaucoup affirment, mais ont-ils raison, qu'on ne reviendra pas en arrière. Confinement oblige, on s'est mis au téléphone. On a parlé avec des télétravailleurs et des managers, avec des juristes et des psychologues, avec des entrepreneurs et même avec un sociologue du travail spécialiste reconnu du travail à distance. Gilles Payen, 30 ans, pharmacien, 4 ans d'officine, aujourd'hui consultant pour l'industrie pharmaceutique. Il partage son appartement en plein centre de Bruxelles avec 2 copains de son âge. On le rencontre parce qu'on sait que son logement ne se prêtait guère au télétravail.
On a quand même un appart qui a une bonne superficie pour y vivre, mais à 3 en tout cas, on n'a pas notre espace de travail dédié à chacun. On n'a pas non plus même un grand bureau où on pourrait se dire on va se retrouver avec un peu les connexions, les câblages, tout ce qu'il faut.
Pour lui, ce sera des mois de travail sur la table à manger. Pour son copain Tom, ce sera dans la chambre à coucher.
On s'est rendu compte de certaines choses, comme par exemple le débit Internet, qui est surutilisé, donc des fois des problèmes de connexion.
Ils auraient pu craquer. Ils n'en ont pas fait un plat.
Créer des tensions, ça n'en a pas créé, mais c'est plus que c'est vraiment pas confortable. En tout cas, 5 jours semaine sur plusieurs mois, c'est pas le plus motivant, surtout quand c'est des métiers assez différents.
Pour la jeune génération, le glissement paraît pourtant naturel. Même dans un logement peu adapté, Gilles, en tout cas, est partant.
Je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Peut-être 1, 2, 3 jours de télétravail par semaine et le reste travailler au bureau.
Votre manager vous appelle et vous dit ce soir une vidéoconférence entre nous à 20h. Ça vous va?
Si c'est ponctuel, oui, pourquoi pas. Parce que moi je considère que si je demande une certaine flexibilité à mon employeur, d'un autre côté, moi aussi je vois pas pourquoi je ne pourrais pas, une fois de temps en temps, c'est exceptionnel, on a besoin de ça à 20h, ok, faisons-le.
Le temps de travail mélangé au temps privé. La question a très vite surgi pour tous les nouveaux télétravailleurs. Alors on s'est demandé, est-ce qu'au moins les règles sont claires ? Nous rencontrons Frédéric Robert, avocat bruxellois, spécialisé en droit social et en télétravail. Quand nous nous voyons, il vient de publier 300 pages sur la question. Pour lui, la législation actuelle fait l'affaire.
Mais oui, le télétravail, c'est une organisation de travail. Organisation de travail basée sur les nouvelles technologies qui se fait en dehors des locaux de l'entreprise. Mais tout le cadre légal, comme la loi qui gère les contrats de travail, la législation sur le bien-être au travail, la législation sur la durée du temps de travail, ce sont des législations qui sont existantes et qui peuvent parfaitement s'adapter au télétravail.
Bon, très bien. Mais pour le respect des horaires?
Est-ce qu'un employeur pourrait exiger de télétravailler, enfin d'avoir une vidéoconférence à 20h? Non. Théoriquement, non. Ce qui se passe, c'est que le travailleur, lui, va peut-être dire oui ou va organiser des choses en dehors de l'horaire normal. Et donc, ça, c'est le paradoxe du télétravail, c'est que les travailleurs disent « j'ai un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle », mais en même temps, disent qu'ils travaillent plus. Et donc, ils ne respectent pas la durée du temps de travail. Et la moyenne, et toutes les études le démontrent. Mais ils sont heureux.
Heureux? Toujours? Est-ce qu'on en est bien sûr? Cécile Blondiot est employée dans une caisse d'assurance sociale. Et en privé, elle est la maman de deux jeunes adolescents.
Comment est-ce qu'ils ont pris ça, eux? Que leur maison est aussi devenue votre lieu de travail?
Alors, je vous le dis texto. Ah ouais, tu vas être là tous les jours? Ils avaient l'impression que j'étais toujours là pour voir s'ils travaillaient pour l'école. Et donc, pour eux, c'était vraiment une intrusion dans leur vie personnelle aussi, en fait.
Après quelques mois, la vie familiale est apaisée. Mais elle sait que le télétravail demande une sacrée discipline. Après quelques semaines à travailler 5 jours par semaine à la maison, elle a failli y rester.
Moi, je n'avais plus envie de voir personne. J'étais bien chez moi, sous ma couverture, dans mon canapé, devant ma télé ou un bon bouquin. Et plus envie de croiser du monde. En fait, au début, on est bien chez soi. On se sent bien, mais ça devient maladif.
Se sentir plus à la maison qu'au travail. François Pichot n'ignore pas le danger. Il est le très consulté directeur du Lantic, le laboratoire sur les nouvelles formes de travail de l'école de gestion de l'Université de Liège.
C'est une des grandes leçons, en fait, hein, de toute cette expérience. C'est le sentiment de ne plus être véritablement partie d'un collectif. Et donc, c'est là où le rôle du management est absolument essentiel. C'est de continuer à maintenir le lien et à maintenir, en quelque sorte, l'appartenance au collectif.
Le collectif, l'esprit d'entreprise risque-t-il de se dissoudre dans le télétravail? L'entreprise Préion, dans la région liégeoise, gros producteur de produits phosphatés, était face au défi. 450 ouvriers qui vont devoir continuer à venir à l'usine et 370 employés au cadre. Quasiment pas de télétravail pour eux début 2020. Mais tous poussés à la maison d'un coup, à la mi-mars.
On a dû avoir plus de 200 travailleurs qui sont passés en télétravail, donc des commandes de PC, des commandes de portables aussi, qu'on a fournies à tous nos employés qui n'avaient pas encore de laptop. Et ça, on leur a fourni à la maison. En une semaine, on a réussi à faire cette transition.
Une politique d'accompagnement qui fonctionnera, malgré les craintes du personnel, celles qu'on a observées partout.
Quels sont les premiers retours que vous avez sur les difficultés auxquelles les salariés se heurtent?
Le premier, c'est la crainte de ne pouvoir pas fonctionner, en tout cas dans leur domicile. Le deuxième volet, c'était clairement la crainte de ne pas pouvoir revenir dans l'entreprise, donc rester indéfiniment en télétravail. Donc ça, ça a été clair. Et la troisième, ça a été l'isolement. Donc, peur d'être isolé et ne plus avoir de contact avec les autres travailleurs.
Vous avez bien vécu cette année de télétravail? Ou bien il y a eu des moments de doute?
Pas de moments de doute, des moments où on se dit c'est dommage, c'est vraiment très dommage parce que quand on travaille au sein d'une entreprise, il y a des liens qui se créent, on travaille avec des collègues 8 heures par jour, donc simplement se mettre autour de la machine à café le matin pour prendre des nouvelles et parler de choses qui n'ont strictement rien à voir avec le travail, c'est quelque chose qui manque.
Et ça dépasse évidemment la machine à café. C'est évidemment les couloirs, le parking, le temps de midi, le débriefing après une réunion. Alors là, on commence à entrer dans le travail lui-même. On a la réunion, proprement dite, intense, problématique, avec éventuellement des conflits. Et puis on a l'après-réunion, où là, on dit « Ah oui, là, tu as été un peu fort, mais heureusement que tu as dit ceci, etc. etc. » Mais ça, c'est beaucoup moins possible, évidemment, en distanciel.
Gare aux tensions qui, à distance, n'auraient pas pu se désamorcer.
L'entreprise ou l'entrepreneur qui dirait « Oh, tout va bien chez moi », j'ai un gros doute. J'ai vraiment un gros doute. En tant qu'employeur, il faut pouvoir aller voir et discuter avec les gens pour sentir ceux qui seraient plus en difficulté. Donc, avec les syndicats, on a fait beaucoup de discussions pour cet accompagnement.
Tournant réussi en 2020, en dépit d'une difficulté inédite, les ouvriers de l'entreprise, eux, n'ont pas eu accès au télétravail. Le délégué des employés a bien senti la tension.
Vous savez, même au début de la crise, même les délégués étaient convaincus que le télétravail était des vacances. Hein. Même les délégués ouvriers, on a eu, honnêtement, de la tension entre nous en disant « Eh oh, tu ne respectes pas mes travailleurs, enfin mes affiliés. »
Des employés en télétravail, des ouvriers rivés au site. Mais même cette frontière-là s'est entrouverte en 2020.
Ça a amené un certain nombre d'entreprises à réfléchir, est-ce que tout nécessite une présence sur site? Est-ce que certaines choses ne pourraient pas être télétravaillables quand tu prépares le conditionnement d'une machine, quand tu fais un reporting sur une ligne de conditionnement et sur la manière dont elle a fonctionné? Ben ça, ce sont des choses qui peuvent être éventuellement délocalisées à domicile.
Arrivé à ce stade-là, on s'est dit que dans le monde d'après, on allait tous être bons pour le télétravail. Mais on a choisi de pousser un peu plus loin. Et on a bien fait. Alexandra Bouisseau est conseillère en prévention, toujours entre employeurs et employés, en contact permanent avec les uns et les autres. La psychologie au travail, c'est son truc.
Un travailleur qui n'a pas choisi, qui ne veut pas faire du télétravail, il va vraiment ressentir des effets négatifs en termes de conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle, mais aussi en termes de performance. Et donc ça peut éventuellement aussi générer du stress, et on sait évidemment tout l'impact négatif que le stress peut avoir sur la santé psychique et physique, évidemment.
Stress, pression, on a entendu ça partout. Il faut être sûr qu'on fait bien le travail, il faut prouver qu'on travaille, et les managers n'y échappent pas. À la maison, Maëlle Van Der Steen a un mari et un garçon de 6 ans. Au boulot, elle a des collaborateurs. Elle est DRH, comme on dit, directrice des ressources humaines, dans une boîte de communication événementielle. La pression, elle l'a vécue.
Il y a une culpabilité énorme de pas d'être chez soi et de dire bah, « là, je ferais quand même bien une lessive » ou « j'ai mon fils qui me demande quelque chose » ou « j'ai mon mari qui a besoin de moi » ou « j'ai moi besoin de temps pour moi ». Et on se dit, ben non, on a du boulot, c'est la crise, il faut avancer, il faut être productif, on a un planning à tenir, etc. Et on finit par commencer à 8h du matin, terminer à 8h du soir, manger juste le soir avec son enfant, mais sur son PC à midi, et puis reprendre jusqu'à 1h du matin.
On entend souvent aussi de la part des managers, hein, c'est... Oui, mais moi, ça m'aide. Hein. Si par exemple, lundi matin, je sais que j'ai déjà traité certains mails le week-end, parce que du coup, ça diminue ma charge de travail, et le lundi à 8h, je suis déjà prêt à commencer. Oui, ok, mais ça veut dire aussi que dans votre équipe, vous montrez l'exemple. Un manager, c'est aussi ça, c'est un rôle d'exemple. Et ça veut dire que vous montrez que c'est ok de travailler le soir ou le week-end, alors qu'en fait, c'est pas ok.
Emel Van Der Steen a d'ailleurs vite compris que les contacts entre télétravailleurs, si on veut que ça marche, c'est du réglage fin.
La difficulté, c'est de pas être invasif. Je me suis vue hier envoyer à une seule personne 5 mails d'affilée. Je savais qu'elle ne bossait pas l'après-midi. Le matin, elle arrive et paf, elle voit la déferlante. Première chose que je fais maintenant le matin, c'est un petit WhatsApp en disant « Pas de panique, on verra ça ensemble. » Je me suis lâchée parce que c'était le moment de traiter ça. Mais voilà, ne pas submerger les membres de son équipe. Et ça, ce n'est pas évident.
D'où l'importance de savoir finalement que c'est permis en télétravail, effectivement, d'avoir un moment des interruptions pour faire des choses personnelles. Quels sont les moments où je travaille et quels sont les moments où peut-être je ne suis pas disponible.
Facile à dire, mais pas si simple. Chacun reste connecté à son employeur et le sait.
Je pense que l'employeur a le moyen de vérifier ce que vous faites. De toute façon, on a nos noms qui sont indiqués également. Donc, ils savent absolument voir ce que vous sortez comme courrier, les prises de téléphone, etc. Donc, contrôler, ils peuvent contrôler s'ils le veulent. Mais ils sont relativement cool pour ça.
Et il va falloir rester cool, en effet. Parce que danger, il y a. Pour ceux qui seraient tentés d'espionner, les possibilités existent. Axel Leguet est professeur en cybersécurité au service spécialisé de l'UC Louvain. Il connaît bien ces logiciels de performance que quasi toutes les entreprises ont déployés en même temps que le télétravail.
Donc les logiciels de performance vont mesurer combien de temps vous passez sur le traitement de texte, combien de temps vous passez sur le tableur, combien de temps vous passez à répondre à vos emails. Et après, on peut, par des calculs, en fonction des heures, expliquer à l'employé qu'il a perdu